troisième temps de notre série consacrée à l'Antiquité dans tous les sens. Aujourd'hui, le sens du goût. Après avoir évoqué la vue lundi, puis hier l'ouïe avec une promenade radiophonique dans l'exposition Musique Écho de l'Antiquité au Louvre-Lens, et avant de nous intéresser demain à la sexualité, nous nous arrêtons sur le sens du goût, la nourriture dans la Rome antique. Grâce à des textes de Pétrone, de Suétone, de Caton ou encore d'Apicius, lus par Daniel Königsberg et choisis par Victor Massé de Lépiné, qui co-animera cette émission avec moi, nous approcherons le régime alimentaire romain tout en disant sûrement que celui-ci a évolué depuis la République jusqu'au Bas-Empire, en compagnie de Dimitri Tillois d'Ambrosi, dont la thèse est consacrée au rapport entre médecine et diététique à l'époque romaine. Il est en train de la rédiger, cette thèse, mais il a déjà rédigé un livre qui vient de paraître aux éditions Arché, L'Empire romain par le menu.
Le chou est un légume qui surpasse tous les autres. Mangez-le soit cuit, soit cru. Si vous le mangez cru, faites-le macérer dans le vinaigre. Il fait digérer merveilleusement, fait du bien au ventre et l'urine, en est bonne pour tout. Si vous voulez dans un banquet boire beaucoup et manger avec appétit, avant le repas, mangez-en cru tant que vous voudrez dans du vinaigre, et aussi après le repas. Mangez-en environ 5 feuilles, il vous produira l'effet de n'avoir rien mangé, et vous boirez tant que vous voudrez.
Voilà pour ce texte de Caton, tiré de l'agriculture de Caton. Bonjour Victor Massé de Lépiné.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour à vous, Dimitri Tillois d'Ambrosi.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Alors, un texte qui nous dit tout de suite que, évidemment, le régime de Caton n'est peut-être pas celui des empereurs du Bas-Empire, tels qu'ils sont décrits chez les chroniqueurs de la fin de l'Empire romain, et que la République romaine, dont Caton était un des fervents défenseurs, est peut-être plus frugale que le Bas-Empire.
En effet, quand on regarde les textes de Caton, il y a un fossé qui me semble assez important entre la table républicaine, qui est sa table, et la table du Haut Empire et même de l'Empire tardif. En effet, Caton se distingue par sa frugalité, qui pour lui est une valeur absolument essentielle, et qui nous semble bien éloignée de la richesse des tables d'Anapicus ou même de Trimalchion dans le Satyricon, par exemple. Et donc, dans l'extrait que l'on vient d'entendre du traité d'Agricultura de Caton, on trouve l'aliment symbolique, emblématique même, je dirais, de Caton, qui est le chou. Ce chou apparaît en quelque sorte comme l'aliment national des Romains, pour notamment toutes les vertus qu'on peut lui prêter.
Alors, parce qu'il faut dire que cette République romaine vénère le travail de l'agriculture, vénère le travail des champs, peut-être plus d'ailleurs que l'élevage, et la nourriture donc végétale prend plus de place que la nourriture animale et la viande en particulier, ou le poisson.
En effet, cette alimentation végétale est perçue comme vertueuse. Vertueuse pourquoi ? Puisque le citoyen romain, attaché à sa terre, qu'il va travailler hein, par son dur labeur...
Ça, c'est le mythe romain par excellence.
C'est le mythe romain par excellence, qui renvoie notamment à certains généraux. Je pense à Cincinnatus, hein, ce grand général qui, pourtant, malgré ses victoires, donc à l'époque républicaine, retourne à sa terre. Une fois donc sa grande carrière militaire terminée. Et donc là, les fruits que produit cette terre hein, sont absolument essentiels pour les Romains dans leur système de hiérarchie alimentaire.
Victor Massé de Lépiné.
Mais alors nous parlons aujourd'hui du goût. Et dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Caton fait l'éloge du chou en nous disant que c'est un légume qui surpasse tous les autres. Mais il ne nous parle pas de son goût, il ne nous parle pas du plaisir qu'on a à manger du chou, mais plutôt de ses vertus diététiques, alimentaires. Dans la suite de ce texte, il nous explique que le chou est bon pour se faire vomir, enfin ou pour se purger par le haut ou par le bas. Toutes ces vertus liées à des aliments qui sont très loin, en tout cas pour l'instant, on est encore assez loin du plaisir de la table.
Oui, en effet. Alors, quand on lit Caton, on y trouve essentiellement des indications d'ordre pratique. C'est-à-dire que Caton ne recherche pas le plaisir, il cherche avant tout à être utile par son traité, utile à son lecteur. Ce lecteur, qui est-il ? Eh bien, c'est l'homme romain, le pater familias, hein, le père de famille, pour faire un petit écho avec la question donc, de capacité irrigation. Et donc, ce père de famille doit être capable de bien choisir les aliments qui seront bons pour les membres de sa maisonnée, des aliments bons pour le corps, utiles. Et donc, en effet, c'est pour ça que Caton insiste davantage sur les vertus.
Oui, et des vertus, donc, puisque vous le dites, qui sont liées à la question de la maisonnée. Donc, à la fois les patrons, ceux qui dirigent cette maisonnée, la femme, les enfants, mais aussi les esclaves. Et d'ailleurs, dans son traité, Caton réfléchit à la façon dont on doit ou on peut nourrir les esclaves.
Nourriture des esclaves. Pour ceux qui travaillent au champ pendant l'hiver, 4 modii de blé triticum. Pendant l'été, 4 modii et demi. Pour le fermier, la fermière, le surveillant, le berger, 3 modii. Pour les esclaves enchaînés pendant l'hiver, 4 livres de pain. Quand ils commenceront à piocher la vigne, 5 livres de pain, jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des figues. Ensuite, revenez à 4 livres. Quand la vendange sera faite, qu'ils boivent de la piquette pendant 3 mois. Le 4e mois, une émine par jour, c'est-à-dire 2 congés demi dans le mois. Le 5e, le 6e, le 7e et le 8e mois, 1 setier par jour, c'est-à-dire 5 conges par mois. Le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, 3 émines par jour, c'est-à-dire une amphore. En plus de cela, au saturnal et au compital, par tête, 1 conge. Quantité totale de vin par tête dans l'année. Pour les esclaves enchaînés, ajoutez, selon ce qu'ils feront comme travail, ce n'est pas excessif qu'ils boivent chacun 10 quadrantales de vin par an. Mettez en réserve le plus possible d'olives tombées. Ensuite, mettez en réserve les olives mûres, dont on pourrait tirer le moins. Ménagez-les pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Quand les olives seront consommées, donnez de l'alec et du vinaigre. Donnez à chacun 1 setier d'huile par mois. Un modus de sel pour chacun suffit dans l'année.
C'est une difficulté de l'histoire de l'alimentation et de la nourriture que d'essayer de comprendre justement les mesures et en particulier lorsqu'il s'agit de refaire des recettes telles que vient de nous le lire à l'instant même Daniel Königsberg. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, vous qui avez travaillé sur l'Empire romain par le menu, cette nourriture des esclaves, ça veut dire qu'il y a une sorte de hiérarchie à l'intérieur de la société romaine et qu'on ne donne pas à manger la même chose à tout le monde.
En effet, donc déjà au niveau des esclaves, lorsque l'on lit Caton, on se rend bien compte qu'il y a une rationalisation très poussée de la distribution des aliments. Alors cette rationalisation s'explique avant tout par les différentes tâches qui vont incomber aux esclaves, c'est-à-dire qu'en fonction de l'effort fourni, en fonction de la position de l'esclave sur le domaine, eh bien c'est ça qui va déterminer la quantité de nourriture qui sera donnée, le type d'aliment qui sera donné. Mais de façon plus large, dans l'ensemble de la société romaine, en effet, il y a une véritable hiérarchie de l'alimentation. Et par exemple, au sein même d'un banquet, on peut ne pas donner les mêmes aliments aux invités en fonction de leur rang.
C'est-à-dire qu'ils sont ensemble sur le triclinum ou dans le triclinum, allongés sur leurs 3 lits, à 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 par exemple, et que les 9 ne mangeront pas la même chose.
Tout à fait. On a certains auteurs qui s'insurge même contre cette pratique. Alors, je pense par exemple à Pline le Jeune dans une de ses lettres qui affirme que lui à sa table tout le monde peut manger la même chose. Et par exemple le vin est souvent l'objet de différenciation. Les meilleurs crus sont pour les invités les plus prestigieux, tandis que les invités de second rang devront se contenter de vins plus médiocres.
Victor Massé-Lépiné.
Alors évidemment dans les sources que vous étudiez, Dimitri Tilloy d'Ambrosi, vous les riches, entre guillemets, sont surreprésentés. On a beaucoup de descriptions de banquets, on va y venir, de recettes de cuisine avec des aliments plus ou moins prestigieux. Là, le texte que nous a lu Daniel Königsberg, il s'agit de la nourriture des esclaves. La nourriture des esclaves ou des citoyens ordinaires ou de basses conditions, c'est d'une grande monotonie, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on retrouve néanmoins cette trilogie qui est dans ce texte, c'est le pain, donc le blé, le vin, la vigne, et l'huile et les olives, y compris pour les esclaves, donc blé, vigne, olivier.
Tout à fait, cette nourriture des catégories plus populaires, hein, voire très pauvres parfois, se caractérise par une simplicité, et cette simplicité est constituée notamment de la trilogie méditerranéenne. Donc le pain, des bouillies également, faites à partir de céréales, d'orge.
Oui, parce que
par
vous
exemple.
Dites que le pain n'apparaît que tardivement dans la République romaine et qu'auparavant, ce qui caractérise un Romain, c'est qu'il mange de la bouillie. Donc il mange des céréales, mais en bouillie. Et c'est un peu plus tard, et là en l'occurrence Caton le mentionne, qu'il mangera du pain. Et voilà. C'est plutôt une galette d'ailleurs qu'un pain gonflé tel qu'on le voit dans les fouilles de Pompéi, dites-vous.
Oui. La bouillie est un plat qui sera prédominant jusqu'au milieu de la République. Et les premiers boulangers qu'on va vraiment apparaître dans les sources, c'est au milieu de la République. Et ça,
c'est-à-dire pour les auditeurs, à quel siècle à peu près ?
Au tournant du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette histoire des boulangers, justement, est retracée par Pline l'Ancien dans l'Histoire naturelle, lorsqu'il évoque justement le pain et son histoire.
Et donc, cette trilogie, l'olive et le vin, mais un vin qu'on ne boit pas comme on le boit aujourd'hui, il est toujours coupé d'eau, il est coupé de miel, il est peut-être un vin miellé, et l'olive, effectivement, fait partie, l'huile d'olive en particulier, du régime alimentaire de base.
Alors oui, ce vin est constamment coupé d'eau, puisque boire le vin pur, c'est se rendre comparable à un barbare. Alors, ce vin est constamment mêlé, en tout cas souvent mêlé, à des épices, des aromates, justement dans un souci de goût, mais aussi de fixation de la vinification, qui est un des enjeux de la viticulture et de la viniculture antique. Et il y a aussi, derrière l'utilisation de ces aromates et de ces herbes ou épices dans le vin, un souci qui peut être d'ordre médical, pour la digestion par exemple.
Victor Massé-Lépinet.
Oui, ce vin, c'est tout de même intéressant, puisque on dit qu'on ne le boit pas pur, parce que pur, ce n'est pas ce qu'on imagine, nous, aujourd'hui, comme étant du vin. Il s'agit plutôt pas d'une purée, mais d'une sorte de mou de vin ou de lit de vin. Vous dites que c'est important de savoir combien de temps il se conserve. Est-ce qu'on a une idée est-ce qu'il y a des grands crus à l'époque romaine? Est-ce qu'il y a des bons vins ou des mauvais vins?
Alors, à la lecture des sources antiques, il apparaît qu'il y a clairement une classification, une hiérarchie des grands crus, qui vont se distinguer par deux critères. Tout d'abord, l'origine. Et dans l'Empire romain, on a toute une classification des aliments qui s'établit par rapport à l'origine.
C'est-à-dire qu'il y a des appellations d'origine contrôlées.
Tout à fait. Alors que ce soit des vins ou des produits solides également. Concernant les vins, les plus prestigieux viennent du monde grec, notamment des îles, comme Chios par exemple, tout à fait, et également de Campanie. Alors le vin de Falerne, dans la région de Naples, est un des plus réputés. Et d'autre part, l'âge du vin est également un critère de qualité. Dans les textes, on retrouve des mentions concernant donc la date à laquelle le vin a été produit, et la référence, c'est les consulats, puisque dans le calendrier romain, le consulat sert de référence, et on dit que, par exemple, tel vin a été produit sous tel ou tel consulat, ce qui est un gage de qualité.
Il est conservé dans des amphores qu'on retrouve ensuite brisées. Une fois que l'amphore a été vidée, on ne la réutilise pas généralement, c'est cela ?
Oui, ces amphores sont des contenants assez éphémères qui ne servent généralement qu'une fois. Elles sont enduites de poids à l'intérieur pour un souci d'étanchéité, mais également de conservation du vin et pour aider une fois de plus à la vinification.
Vous voulez dire que, par exemple, le raisiné grec pourrait ressembler un peu à ce qu'on fait à l'époque, c'est-à-dire comme on enduit la barrique de bois de résine, eh bien c'est un peu la même chose pour le vin grec ?
Oui, l'utilisation de la poix sur ces amphores, sur les parois intérieures de ces amphores, devait, c'est certainement le cas, donner un goût tout à fait particulier, raisiné en effet, au vin qui était consommé.
Victor Massé de l'Épinay.
Mais même les grands crus, donc on les boit coupés. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai appris en vous lisant, Dimitri Tillois, c'est qu'il est souvent coupé d'eau chaude.
Oui. Alors cette eau chaude qu'on appelle la calida en latin répond vraiment au goût de l'élite justement, qui apprécie cette chaleur particulière. Et dans les maisons romaines, au sein donc des cuisines et de la demeure, on a des récipient qui sert justement à faire chauffer de l'eau qui sera ensuite versée dans le vin pour le couper. Mais à l'extrême inverse, le goût de l'élite fait qu'on utilise également de la glace, de la neige, qui vient des montagnes, qui peut être ensuite distribuée et vendue, et qui permet de couper aussi le vin. Donc on a vraiment deux opposés dans la consommation
de vin. Alors vous dites le goût de l'élite, vous avez évoqué brièvement le fait tout à l'heure qu'évidemment on sait peu de choses sur ce que mangeait un Romain de base ou une Romaine de base dans son régime alimentaire. Toutefois, vous dites qu'on peut savoir qu'ils mangent plutôt soit des bouillies, soit du pain, et beaucoup de pain, en l'occurrence, quand ils font, on passe au régime de pain, de panification. Et puis qu'ils vont dans ces gargotes qu'on appelle les copona ou les popina, dans lesquelles on prépare parfois un plat chaud, ce qui permet de se réchauffer, de se nourrir d'un plat chaud.
Oui, l'étude de ces tavernes, hein, qu'on appelle donc en effet la caopona ou la popina, permet vraiment d'approcher l'alimentation du quotidien, l'alimentation populaire, puisqu'on sait ce qu'on pouvait y servir. On le sait par l'archéologie, on le sait par l'iconographie, on le sait également par quelques textes littéraires qui évoquent, alors je pense notamment à des satiristes comme Martial ou Juvénal, qui décrivent ce que l'on peut y consommer. Alors c'est une alimentation qui souvent est consistante, qui est chaude également, ce qui n'est pas négligeable puisque les plus pauvres, hein, ne disposent pas de cuisine dans les petits appartements des villes, les insulae. Et donc c'est vraiment une source majeure pour l'alimentation du petit peuple. Ce qui explique le très grand nombre de ces tavernes que l'on peut retrouver à Pompéi.
Victor Massé-Lupinet.
Oui, parmi les sources qui permettent de comprendre l'alimentation des populations modestes, il y a évidemment les recherches archéologiques et l'étude des squelettes, des restes. On peut aujourd'hui savoir, en étudiant les squelettes, en étudiant les dents, de retrouver les éventuelles carences alimentaires des populations, des enfants. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que les Romains, le Romain de base, avait des carences alimentaires?
Alors l'étude des squelettes en effet est très riche d'enseignements, je pense notamment à celle du Herculanum, où on a un bel échantillon d'individus hein, qui a été conservé. Et donc l'étude de ces squelettes montre qu'il pouvait y avoir en effet parfois des signes de carence, parfois de malnutrition à travers l'Empire. Alors, malgré tout une petite exception pour la région de Pompéi et d'Herculanum, qui est une région assez riche. Et il s'avère que dans cette région, le régime alimentaire est très diversifié, puisque on a des légumineuses, des légumes, la viande en petite quantité et beaucoup de fruits de mer. On a retrouvé dans les égouts d'Herculanum hein, énormément de coquillages, de coquilles qui traduisent la consommation de fruits de mer puisqu'on est sur la côte hein, et l'accès est aisé.
Et ce goût romain peut se propager jusqu'en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne actuellement, puisqu'on a retrouvé aussi dans des fouilles datant de cette période romaine du côté de la Grande-Bretagne, on a retrouvé des huîtres ou des coquilles d'huîtres qui montrent aussi qu'il y avait une consommation de l'huître assez éloignée justement du centre de l'Empire romain.
Oui, l'huître est un aliment qui est assez intéressant puisqu'il traduit vraiment à la fois le goût romain et sa diffusion. Et comme vous le dites, en Grande-Bretagne, sur la frontière, sur le Limès, on a retrouvé des coquilles d'huîtres qui répondent à la demande des soldats. Et les soldats sont vraiment un vecteur de la diffusion des pratiques alimentaires romaines puisqu'ils vont faire importer des produits qui seront donc consommés ensuite dans les camps de légionnaires.
Même si, dites-vous, Dimitri Tillois d'Ambrosi, et c'est ce que je disais en annonçant cette émission au matin de France Culture tout à l'heure, on peut dire que le goût romain ne se propage pas partout, qu'il y a une sorte de très grande hétérogénéité de ce que mange un Romain, par exemple, de l'Empire du 1er ou du 2 siècle après Jésus-Christ, parce que, eh bien, on conserve des habitudes alimentaires de chacune de ces régions et qu'on peut voir, par exemple, que des soldats romains sur le Limès face du côté de la Germanie, par exemple, eh bien, mangent à peu près la même chose que ce que mangent des Germains eux-mêmes de l'autre côté du Limès.
Oui, ça me semble essentiel de nuancer l'idée d'une romanisation complète par alimentation. Alors certes, certains produits comme l'huile, le garum, hein, cette sauce de poisson, peuvent être des signes de l'adoption de pratiques qui viennent de Rome, mais malgré tout, les traditions locales restent très prégnantes. Et je pense notamment aux campagnes d'Asie mineure que décrit Galien, donc un médecin du 2e siècle après Jésus-Christ, où on conserve des recettes simples, à base de céréales très souvent, et qui sont typiques de cette région donc du monde romain.
Alors nous avons évoqué avec vous Dimitri Tillois d'Ambrosi, auteur de l'Empire romain par le menu, cette nourriture plutôt modeste des Romains de base. Passons du côté du faste avec Apicius, auteur de l'art culinaire, Daniel Königsberg.
Il y eut vers le temps de Tibère un certain Apicius, jouisseur très riche, dont tirent leur nom maintes espèces de gâteaux dites apiciens. Ce personnage, ayant fait bonne dépense de millions pour son ventre, vivait la plupart du temps à Minturne, c'est une ville de Campanie. Mangeant de coûteuses écrevisses de mer qui atteignent dans la région une forte taille, dépassant celle de Smyrne et les homards d'Alexandrie, ayant entendu dire qu'il y en avait aussi en Libye de grosseur extraordinaire, il prit la mer sans attendre un seul jour. Il souffrit beaucoup dans la traversée et, comme il approchait du but, avant qu'il eût quitté le navire, on avait beaucoup parlé chez les Libyens de son arrivée, des pêcheurs vinrent en barque, lui offrirent leurs écrevisses les plus belles. Quand il les vit, il demanda « En avez-vous de plus grosses ?» Sur leur réponse qu'il n'en existait pas dépassant celles qu'ils avaient apportées, Il se remémora celle de Minturne et commanda au pilote de reprendre la route de l'Italie sans même avoir abordé la Terre.
Un extrait du banquet des sophistes d'Athénée de Naucratis qui décrit donc ce fameux Apicius dont l'art culinaire nous est parvenu, même si vous nous expliquez, Dimitri Tillois d'Ambrosie, dans votre livre L'Empire par le menu, bien que ces recettes d'Apicius sont des recettes qui se sont accumulées au cours du temps et que ce n'est pas Apicius soi-même qui les a toutes écrites en l'occurrence.
Oui, paradoxalement, ce traité d'Apicius, le De Re Coquinaria, de l'art culinaire est très connu. Mais on sait finalement assez peu de choses sur Apicius lui-même, si ce n'est quelques anecdotes que l'on peut glaner dans les sources antiques, telles Athénée par exemple. Et ce recueil que l'on peut lire actuellement est en fait une compilation tardive, puisqu'on trouve des recettes qui sont bien postérieures à l'époque de Tibère, qui peut être d'époque flavienne par exemple, avec les poêles à Vitellus je pense notamment. Et donc c'est une tradition qui s'est constituée au fil des siècles jusqu'à la fin de l'Empire et qui illustre l'idéal d'une haute cuisine, même si dans ce recueil on peut aussi trouver quelques recettes très simples, très populaires. Donc on a diverses traditions qui se mêlent dans ce recueil.
Alors il faut dire, et c'est ce que vous expliquez, que la gastronomie romaine d'une certaine façon se forge vraiment au contact de la gastronomie grecque. Et en particulier, on connaît une partie du traité de gastronomie d'Archestrate, par exemple, dites-vous, les cités grecques du sud de l'Italie, comme Sybaris, qui va donner évidemment l'adjectif sybarite, sont des cités qui sont considérées par les Romains frustres et dont le régime est plutôt frugal, comme des endroits de débauche. Et il faudra une sorte d'acculturation des Romains à ce régime alimentaire plutôt fastueux de la Grèce pour pouvoir progressivement évoluer vers ce que nous connaissons ensuite et vers ces traités d'Apicius.
Oui, l'histoire de la gastronomie romaine, finalement, est intimement liée à l'histoire des conquêtes elles-mêmes, et notamment aux conquêtes en direction de l'Orient, autour du IIe siècle avant Jésus-Christ, puisque, au contact de ces Grecs, qui pourtant sont méprisés d'une certaine façon, eh bien, paradoxalement, les Romains sont fascinés par leur raffinement, leur mode de vie, et l'arrivée d'esclaves comme des cuisiniers, par exemple, puisque ce sont souvent des esclaves, eh bien, va permettre d'introduire dans les pratiques romaines tous les raffinements gastronomiques que l'on peut retrouver en Grande-Grèce, donc dans le sud de l'Italie, et de Sicile également, et de plus loin également.
Victor Massé d'Épinay.
Alors cet art culinaire d'Apicius vient d'être republié aux belles lettres, dans un beau livre illustré, qui se lit avec beaucoup de plaisir, c'est très amusant de lire Apicius. Néanmoins, on a du mal à vraiment considérer que ce sont des recettes, puisque les proportions ne sont jamais indiquées. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est j'allais dire une certaine monotonie. Apicius, il y a toujours le garum, alors que vous avez évoqué, tout est toujours mouillé de garum, mouillé de vin. Et puis il y a une abondance d'herbes et d'épices dont on a du mal peut-être à savoir ce qu'elles sont. En particulier, il y en a deux, je voudrais vous demander si vous savez ce qu'elles sont. C'est le laser, dont il est question dans presque toutes les recettes, et la rue. Qu'est-ce que c'est le laser? Qu'est-ce que c'est la rue?
Alors oui, vous venez de citer deux herbes qui me semblent fondamentales dans la cuisine romaine. La rue, qui est une plante extrêmement amère, qui n'est plus consommée aujourd'hui, qui existe encore, qui est même décriée parfois par les sources à cause de ses vertus, ou ses non-vertus plutôt abortives. C'est une plante voilà, qui est assez spécifique et qui se distingue par un goût très amer. Et là, on trouve un trait du goût des Romains qui est l'attrait pour des goûts assez prononcés que l'on va marier parfois avec des opposés.
Le sucré-salé.
Par exemple. Autre chose donc par rapport au laser, alors il s'agit d'une plante qui en très grande partie vient de Libye actuelle, la province de Cyrénaïque à l'époque romaine, que l'on retrouve même sur certaines monnaies hein, de cette province, qui montre que c'est vraiment un produit emblématique de la région, et qui est extrêmement apprécié des Romains qui vont l'importer en très très grande quantité. À tel point que dès l'Empire romain, on se rend compte que cette plante est en voie d'extinction, tellement sa culture et sa récolte
était
intense. Ouais. Et donc, voilà, on a un produit vraiment qui est emblématique et très significatif du goût des Romains. Et on peut supposer, c'est ce que disent les textes, hein, que le goût de cette plante, tout comme la rue, était également très amer.
Alors, plongeons dans les textes et en particulier les recettes d'Apicius. Donc, l'art culinaire, la recette du porcelet deux fois farci.
Nettoyez le porcelet, videz-le par la gorge, troussez-le par la nuque. Avant de le faire saisir, ouvrez l'oreille sous la peau. Remplissez de farce de Terentius une vessie de bœuf au col de laquelle vous adapterez un chalumeau d'oiseleur par où vous ferez pénétrer dans l'oreille tout ce qu'elle pourra contenir. Fermez par un papier et agrafez. Préparez une autre farce. Pour ce faire, pilez du poivre, de la livrèche, de l'origan, un peu de racines de lazare, mouillées de garum, ajouter des cervelles cuites, des œufs crus, de la semoule cuite et du jus de cuisson, des petits oiseaux si vous en avez, des pignons et du poivre en grain. Amalgamez avec du garum. Remplissez le porcelet de cette farce, fermez-le avec du papier et agrafez. Mettez au four, après cuisson, défaites-le, arrosez d'huile et servez.
Évidemment, on aime tous des petits oiseaux, si vous en avez. Parce qu'évidemment, on a tous dans notre cuisine des petits oiseaux. Qu'est-ce qu'on a comme cuisine de base, d'une certaine façon, forcément, dans une cuisine romaine, quand on est cuisinier, qu'on appartient à une brigade où il y a le culinarius, le cocus, l'archimagirus, le structor qui est chargé de la présentation des plats et le scissor qui découpe les aliments. Qu'est-ce qu'on a comme produit de base que l'on va mettre à peu près dans tous les plats?
Alors, à la fin du recueil d'Apicus, justement, on a une liste d'ingrédients, de produits qui sont indispensables à une cuisine romaine. Et on y trouve essentiellement des herbes et des aromates, ce qui montre bien l'importance de l'assaisonnement des plats. Et donc, toute cette liste que l'on peut retrouver, on va trouver par exemple du poivre, de la livèche, d'autres plantes aromatiques, du gingembre également par exemple. Tous ces ingrédients, du coup, sont vraiment considérés comme indispensables à la réussite d'un banquet. Et le fait qu'on puisse les conserver longtemps explique qu'on puisse constituer des réserves sur le long terme.
Il y a d'autres ingrédients qui sont dans beaucoup de recettes d'Apicius et dans beaucoup de recettes de sauce en particulier. Ce sont les cervelles dont il a été question ici. Il met dans à peu près tout des cervelles, des quenelles. On ne sait pas, enfin peut-être que vous savez ce que c'est que les quenelles. Ce sont des quenelles, enfin avec quoi sont-elles faites? Des œufs crus qu'on met aussi beaucoup pour amlier, amalgamer. Tout ça, ce sont des choses qu'on mange tous les jours pour ces Romains un peu évolués qui ont les moyens d'avoir un cuisinier.
Oui, donc là, on trouve des éléments qui sont quand même assez extravagants pour nous, voire exotiques. Vous citez l'exemple des quenelles. En fait, il s'agit de sortes de hachis. On peut les faire à partir de porc, à partir de poisson. Et elles peuvent même servir de farce dans le cas de certains plats. Les cervelles, comme vous l'avez dit, sont également très présentes chez Apicus. Et ce qui peut nous surprendre, aussi bien pour des plats salés que pour des plats sucrés, ce qui traduit bien ce goût pour les mélanges qui peuvent nous paraître un peu atypiques.
Et ce sont des cervelles de porc encore ?
Oui, probablement de porc, en tout cas les animaux qui sont peu onéreux et dont on peut prendre facilement les morceaux.
Puisque le porc est quand même la viande principale.
Oui, le porc en effet est omniprésent dans le monde romain, consommé de façon bien plus importante que le bœuf par exemple. Et les textes antiques, et je pense une fois de plus à Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, le présentent vraiment comme un garde-manger. Un garde-manger dans la mesure où on peut consommer tous ces morceaux, les gros quartiers de viande, tout comme les abats.
Oui, et donc cette nourriture de base qui est composée à partir de produits de la terre, donc, mais on fait venir aussi de très très loin les aliments. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut peut-être s'y arrêter, c'est aussi l'expansion de l'Empire romain qui augmente la grandeur du garde-manger d'une certaine façon. On va récupérer des nourritures qui vont aller jusqu'en Inde, des épices qui vont jusqu'au Yémen et jusqu'à l'Arabie heureuse, etc., qui vont arriver sur les plats des riches romains, Dimitri Tilloy d'Ambrosi.
Oui, l'idée de l'expansion de l'Empire par rapport à l'enrichissement de la gastronomie est essentielle, puisque l'Empire, l'œcumène, c'est-à-dire un espace de vie commun à tous les gens qui vivent sous domination romaine, est en quelque sorte un véritable garde-manger, une véritable réserve de produits les plus diversifiés les uns par rapport aux autres, qui permet donc de satisfaire les palais de l'élite. Et on n'hésite pas, en effet, à importer des produits de très loin, voire d'Extrême-Orient.
Victor Massé-Lépinet.
Je voudrais revenir un peu sur la viande. Vous avez dit qu'on a dit que le porc était la viande principale, que le bœuf était peu prisé. C'est un animal qui sert essentiellement dans les champs, et on ne le tue qu'après qu'il est bien travaillé. Est-ce qu'il y a des viandes qui sont interdites ou totalement déconsidérées? Est-ce qu'on mange du cheval? Est-ce qu'on mange, je ne sais pas, du chien même peut-être? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il y a des tabous ou des interdits sur certaines viandes?
Alors, à la lecture des textes antiques, on se rend compte que, par exemple, les animaux tués dans l'amphithéâtre pouvaient être consommés. L'ours, par exemple.
On peut manger un cœur d'éléphant, par exemple.
Alors, ça, c'est une anecdote de Galien qui raconte, en effet, se rendre au palais impérial. Et il se rend dans les cuisines, plus précisément, et il demande au cuisinier la possibilité de récupérer le cœur d'éléphant. Alors, on ne sait pas si le cœur lui-même était consommé, mais en tout cas, le fait qu'on ait des morceaux d'éléphant dans les cuisines, ça peut laisser penser que cette viande était consommée. Je précise qu'on est entre le règne de Marc Aurèle et Commode, donc
on est plutôt vers la
plutôt
fin,
vers Commode, voilà. Ouais. Et ça peut correspondre à ses goûts un petit peu extravagants.
Oui, et par exemple, quand nos amis Goscinny et Uderzo nous présentent des banquets dont vous nous direz qu'il n'existe pas véritablement, des sortes d'orgies romaines dans lesquelles on se nourrit de langue de girafe, on peut manger de la langue de girafe. Ça peut, on peut en manger, on en trouve.
Oui, alors. Les animaux de l'amphithéâtre pouvaient être consommés. Par exemple, à Pompéi, on a retrouvé des restes de girafes qui ont été travaillés par des bouchers, ce qui peut traduire une consommation. Mais voilà, il faut se garder de toute généralisation. Mais en tout cas, c'est un fait qui peut être attesté.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Dimitri Tillois d'Ambrosie, que la particularité de cette gastronomie romaine, c'est qu'elle avait puisé beaucoup aux sources de la gastronomie grecque. Alors, il y a quelque chose qu'elle ne puise pas, c'est la présence des femmes au banquet. On a retrouvé, par exemple, dans des fabuleuses tablettes qui s'appellent les tablettes de Vindolanda et qui nous permettent de voir ce qu'était la vie en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne romaine, parce que ce sont des tablettes sur lesquelles il y a des lettres décrites, etc. On a retrouvé cette lettre que nous lit tout de suite Daniel Königsberg.
De Claudia Severa à sa chère Lipidina, le bonjour. Le troisième jour des ides de septembre, ma sœur, je souhaite sincèrement que tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire. Par ta présence, tu me rendras ce jour encore plus agréable si tu viens. Donne le bonjour à ton cher Cérialis. Mon Aelius et mon petit garçon te saluent. Je compte sur toi, ma sœur. Porte-toi bien, ma sœur, ma chère âme. Puissais-je ainsi porter bien, ma très chère. Salut à toi.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire consacrée dans une série de La Fabrique sur l'Antiquité dans tous les sens, au sens du goût et à la table chez les Romains, avec Dimitri Tillois d'Ambrosie, auteur de l'Empire romain par le menu. Alors ça, c'est formidable de trouver un texte de vie quotidienne, une invitation à un anniversaire par une femme à une autre femme pour un banquet.
Oui, alors ces tablettes de Vindolanda sont tout à fait passionnantes puisqu'elles sont un véritable tableau de la vie quotidienne sur la frontière bretonne, donc en Angleterre actuelle, et elles nous donnent un véritable aperçu du quotidien romain. Et donc cette invitation que l'on vient d'entendre montre l'importance également de l'hospitalité, qui est une valeur essentielle de la société romaine, dans le sens où, entre membres de l'élite, on doit donner, mais en échange, évidemment, on attend toujours de recevoir. C'est une logique de don et de contre-don. Et cette invitation répond à des règles également. Et les Romains sont très pointilleux par rapport à la politesse, aux normes qui entourent ces pratiques d'hospitalité.
Oui, l'art du savoir-vivre à la romaine. Victor Massel d'Épinay.
Et tout est très codifié, y compris dans le repas, le sens, l'organisation et la succession des plats. Également la tenue à table. Tout à l'heure, on a évoqué, donc bien sûr, ces lits sur lesquels on est couché. On est couché à trois par lit, expliquez-vous. Donc, comme il y a trois lits, on peut être neuf dans un banquet. Et alors, on mange avec les doigts, ça on le sait. On s'essuie sur des toges qui sont spécialement prêtées pour l'occasion. Et on jette les restes par terre, puisque les morts sont aussi présents au banquet.
Oui, c'est un aspect essentiel du banquet romain, qui est entouré d'une très grande symbolique. Il y a évidemment donc des valeurs qui lui sont inhérentes, comme l'hospitalité, comme je viens de l'évoquer. Mais donc les morts sont présents à la table des vivants. Et ces restes alimentaires que l'on doit laisser par terre leur sont destinés comme une forme d'offrande. Ce qui touche le sol devient tabou en quelque sorte. Il est au contact du monde souterrain, du monde des enfers. Et on attend que le repas soit fini généralement pour pouvoir débarrasser, pour que les esclaves puissent nettoyer le sol. Et on a certaines mosaïques très intéressantes qui représentent justement des sols, de salles à manger, couverts de déchets. On en a une par exemple au Musée du Vatican qui représente une multitude d'os par exemple, de morceaux d'aliments qui sont laissés de côté.
Alors vous nous expliquez, Dimitri Tillois d'Ambrosie, dans l'Empire par le menu, que les premiers Romains ont un regard très acide sur les Étrusques, leurs voisins, en particulier par la présence en Étrurie, des femmes au banquet. Et donc, on est entre soi au départ, entre Romains, mais progressivement, dites-vous, eh bien, les femmes ont droit à ne plus s'asseoir sur le tabouret, mais à venir s'allonger sur le lit de dîner, en l'occurrence. Et évidemment, elles ont un autre statut parce qu'elles n'ont pas le droit de manger de tout, et en particulier, elles n'ont pas le droit de boire du vin.
Il existe une loi massaliote qui interdit aux femmes de s'adonner au vin et qui leur prescrit de boire de l'eau à tout âge. Théophraste dit que cette loi était en vigueur chez les Milésiens également et que si les Ioniennes n'étaient en général pas soumises à cette règle, les femmes de Milet l'étaient. Pourquoi donc ne parlerais-je pas également de la loi romaine ? Comment ne serais-je pas taxé à juste titre d'étourderie si j'évoquais les lois des Locriens, des Massiliotes et des Milésiens et que je laisse sottement sans mention ce qui touche à ma propre patrie. Eh bien donc, chez les Romains aussi, cette loi était des plus respectées. Aucune femme, ni libre, ni esclave, n'aurait touché du vin, pas plus que les jeunes gens nobles, depuis leur entrée dans la jeunesse, jusqu'à 35 ans.
Un extrait d'un texte d'Élien, lu par Daniel Königsberg, Dimitri Tillois d'Ambrogi. On a l'impression tout de même que c'est quelque chose d'ancien et que ça évolue peut-être au cours de l'Empire romain.
Oui, le rapport entre le vin et les femmes est une question tout à fait passionnante, puisque on part d'un interdit qui est lié alors, à des considérations morales et médicales également. Morales, puisque le vin risque de faire perdre donc, aux femmes leur vertu, si elles s'enivrent trop, et d'autre part, une des grandes craintes des Romains, c'est que ce vin ait des vertus abortives, qu'elle risque de perdre l'enfant ou bien d'être stérile hein, avant même de pouvoir enfanter. Mais on observe en effet, au fil de l'histoire de l'Empire, une évolution par rapport à ce rapport entre vin et femme, puisque les femmes de l'époque impériale peuvent consommer du vin. On le voit par exemple avec Livie, hein, femme d'Auguste, qui même tient sa longévité de la consommation de vin.
Mais néanmoins, vous avez prononcé un adjectif qui est important, moral. On doit se tenir bien dans ces banquets lorsqu'on reçoit chez soi. Il y a toute une morale, un éthos, dirait-on aujourd'hui, du comportement de ceux qui banquettent ensemble.
Oui, cette morale nous éloigne du coup des clichés que l'on peut avoir autour de l'alimentation romaine. Et les Romains sont des gens qu'on pourrait presque qualifier de puritains en quelque sorte, dans le sens où la table, le banquet, est un espace où l'on doit constamment afficher cette morale, faire preuve d'une retenue, d'une mesure. Cette notion de mesure est vraiment essentielle dans les mentalités romaines. Et donc, par exemple, l'attitude que l'on doit avoir envers les femmes doit être respectueuse. On doit être maître de son corps, être maître de soi-même. Et une inscription de Pompée, que je mentionne donc dans l'ouvrage, qui vient de la maison du moraliste, rappelle aux invités, aux convives, quelles seront les règles à respecter afin que le banquet se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Et en particulier, ne pas regarder la femme du voisin.
Notamment, ne pas regarder la femme du voisin pour ne pas créer de discorde entre les convives.
Victor Massé-Lépinet.
Alors, on se tient très bien à table. Il y a néanmoins des personnages qui sont importants dans les textes, qui sont souvent mentionnés dans les banquets. Ce sont les parasites. Qui sont ces parasites? D'où viennent-ils? Et pourquoi sont-ils tolérés comme ça pour venir? Ce sont des picassiettes, en quelque sorte.
Oui, ces parasites peuvent vraiment être considérés comme des picassiettes professionnelles, tout à fait. On les retrouve très souvent dans les œuvres comiques, dans le théâtre de Plaute, par exemple, et également dans des œuvres satiriques. Ils sont vraiment l'objet de moqueries, de railleries de la part de l'élite romaine. Ils s'invitent dans les banquets, en quelque sorte, pour pouvoir récupérer quelques morceaux qu'ils pourront ramener chez eux. Pour eux, c'est presque une question de survie. Certaines sources comiques les montrent vraiment en quête de nourriture. Pour eux, c'est une chose qui est fondamentale.
Mais on est tenu de leur ouvrir la porte.
Voilà, on est tenu de leur ouvrir la porte, puisque ça rentre toujours dans cette logique d'hospitalité. Un maître de maison qui refuserait quelqu'un à sa table serait mal perçu. Mais ce qui est important, et Juvénal le dit assez bien, c'est qu'en fait, le maître de maison qui accorde des aliments aux parasites attendra en retour des services de la part de ce parasite. On est dans une logique de client et de patron qui est un des fondements de la société romaine.
Alors, ces banquets ont été décrits généralement par des auteurs qui parfois s'en sont moqués. C'est parvenu jusqu'à nous par le cinéma, nous expliquez-vous, en particulier Dimitri Tillois d'Ambrosie. Et donc, on a une image, et peut-être aussi par Astérix et Obélix, on a une image un peu détournée de ce qu'étaient les banquets, et en particulier parce que Pétrone est passé par là avec le Satyricon.
On a eu en premier un cochon couronné de boudin avec autour du sang frit et des gésiers très bien arrangés. Il y avait sûrement de la bête et du pain complet fait maison. Moi, je préfère ça au pain blanc. Ça donne des forces. Et quand je vais faire ma commission, ça la fait passer sans bobo. Le plat suivant, c'était un feuilleté fromage arrosé par-dessus d'un miel d'Espagne chaud extra. Du coup, le feuilleté, j'ai rien mangé du tout. Et le miel, je m'en suis flanqué jusque-là. Autour, des pois chiches et des lupins, des noix à volonté et une pomme par personne. Et puis, il y a eu présenté à part une pièce de viande d'ours. Et Cynthia, comme elle connaissait pas et qu'elle y a goûté, elle a dégueulé tripé boyau. Moi, au contraire, j'en ai bouloté plus d'une livre. C'est goûteux, juste comme un sanglier. Et je me disais que si l'ours belote le bonhomme, raison de plus que le bonhomme boulotte l'ours. Pour finir, on a eu du fromage frais, du vin cuit, un escargot chacun, du gras double, des terrines de foie, des œufs en bonnet, des raves à la moutarde et une chiée de ragoût. On a aussi fait passer un ravier de cumin au vinaigre et il y a eu des malpolis qui en ont pris 3 poignées. Le jambon, on lui a fait grâce.
Voilà, c'est tiré du Satyricon de Pétrone, lu par Daniel Koenigsberg, Dimitri Tilloy d'Ambrosie. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'un texte comme celui-ci ?
Alors, ce texte présente un banquet qu'on peut véritablement qualifier de gargantuesque. Il occupe une partie importante de l'œuvre de Pétrone.
Le banquet de Trimalcion.
Le banquet de Trimalcion. Alors, il faut le présenter en quelques mots. Il s'agit d'un très riche affranchi. Les affranchis sont déconsidérés par les Romains et sont vus comme des parvenus, des nouveaux riches qui font preuve d'un luxe tapageur, de mauvais goût même, on pourrait dire. Et ce banquet est presque une parodie de banquet. Il s'agit davantage d'une parodie des pratiques de l'élite romaine que d'une véritable description d'un banquet.
Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de cochon couronné de boudin avec du sang frit et des gésiers autour, par exemple?
Voilà,
Il
s'agit d'une parodie, une caricature en quelque sorte, des plats que l'on pouvait servir habituellement.
Oui. Victor Massé de l'Épinay.
Mais alors, c'est un peu triste, non pas de faire tomber toutes les idées reçues, mais quand même, on voit des Romains qui sont des ascètes, qui mangent essentiellement pour avoir pour une digestion agréable, pour être en bonne santé. Il y a tout de même, quand on lit Apicius ou quand on lit certains autres auteurs classiques, des ingrédients extraordinaires. Alors, on a évoqué tout à l'heure la girafe, mais des ingrédients extraordinaires qui ont bien existé et qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait exotiques. Les laitances de murène, les langues de paon, les sabots de chameau, les vulves de truies, parce qu'Apicius donne beaucoup de recettes de vulves de truies. Tout ça, on
farci.
A quand même...
Farci.
Farci. Et de truies stériles, d'ailleurs, souvent. On en a quand même mangé, tout ça? Ou pas du tout?
Alors, il s'avère que ces morceaux qu'on vient de citer sont des abats, très souvent, des parties parfois très petites en termes de taille. Il y a peu à manger, mais cela traduit un goût pour des morceaux raffinés, des morceaux exotiques, parfois difficiles à obtenir. Et en effet, quand on prend le cas des vulves de truies, il s'agit finalement de quelque chose de très apprécié. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, c'est une pratique assez répandue, puisque l'empereur Adrien lui-même, par exemple, en consommait très fréquemment. Il en faisait des feuilletés, qui étaient consommés avec du jambon qui était mélangé, une farce également. Et donc voilà, ce sont des pratiques alors, vraiment réservées à une élite restreinte forcément, mais c'est une pratique qui était assez répandue.
Alors il y a des rappels au règlement de temps en temps quand même dans la gastronomie romaine et en particulier de cette frugalité des origines qui parfois n'est pas respectée par des empereurs plus tardifs et en particulier l'empereur Vitellius tel que le raconte Suétone dans sa vie des 12 Césars.
La gloutonnerie de l'empereur Vitellius. Ses vices principaux étaient la gourmandise et la cruauté. Il prenait toujours 3 repas, quelquefois 4, car il distinguait le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, l'orgie, et son estomac suffisait sans peine à tous, grâce à son habitude de se faire vomir. Il s'invitait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, dans la même journée, et jamais ses hôtes ne dépensèrent moins de 400 000 sesterces pour un seul de ses festins. Le plus fameux de tous fut le banquet de bienvenue que son frère lui offrit. On y servit, dit-on, 2 000 poissons des plus recherchés, 7 000 oiseaux. Lui-même surpassa encore cette somptuosité en inaugurant un plat qu'il se fait plaisir à nommer, à cause de ses dimensions extraordinaires, le bouclier de Minerve protectrice de la ville. Il fit mêler dans ce plat des foies de scare, des cervelles de faisan et de paon, des langues de flamand, des laitances de murène que ses capitaines de navires et ses trièmes étaient allés lui chercher jusque dans les pays des Parthes et jusqu'au détroit de Gadès. Non seulement sa gloutonnerie était sans borne, mais elle ne connaissait point d'heure ni de répugnance, car même durant un sacrifice ou un voyage, il ne put jamais se retenir de manger aussitôt sur place, devant l'autel, les entrailles et les pains de froment, qu'il arrachait presque du feu et, dans les cabarets, le long des routes, les met encore fumants ou les restes de la veille et les victuailles déjà entamées.
C'est presque un caractère de la Bruyère qui nous est décrit dans la vie des Douze Césars par Suétone avec la gloutonnerie de l'empereur Vitellius. Mais Dimitri donc d'Ambrogi, on a dans cette question de la gloutonnerie, il y a quelque chose de très important qui peut-être est point en dessous, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des viandes sacrificielles que l'on ne mange peut-être pas d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, l'empereur, il va profiter de ce sacrifice, de la cuisson de ces aliments de viande sacrificielle pour aller piocher sur l'autel directement la nourriture.
Oui, alors tout d'abord, par rapport à Vitellius, qui est un empereur donc des années de 69 après Jésus-Christ, de l'année des quatre empereurs, il s'agit d'un des empereurs les plus gloutons que l'histoire de Rome ait connu. Et sa gloutonnerie, d'ailleurs, est vraiment proverbiale. Et concernant donc la consommation de viande issue de sacrifices, hein, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ces viandes pouvaient être consommées, mais dans un cadre bien précis, qui est le banquet qui suit le sacrifice. Et là, ce qui est dénoncé finalement par Suétone, c'est le fait que Vitellius se permette de prendre ces viandes en dehors du cadre du banquet.
Il y a une norme à respecter,
voilà. Il y a une forme de désacralisation, il y a une norme à respecter quant à la consommation de ces viandes sacrificielles.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, demain on parlera de sexualité dans cette semaine sur les sens, la sexualité qu'on avait, qu'on considère comme la fête des sens, mais le banquet romain c'est aussi une fête des sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le goût qui est mobilisé, les banquets des empereurs et des riches romains c'est aussi des spectacles pour tous les sens, il y a de la musique, il y a des danses, il y a des parfums qui sont répandus, parfois qui sortent du plafond ou des fleurs pour que tous les sens soient en éveil.
Oui, le banquet n'est pas un moment où on satisfait seulement le goût, mais en effet, tous les sens sont activés, sont mis en éveil par le banquet. La vue par l'aspect des plats, et l'aspect des plats est essentiel, on n'hésite pas à utiliser des colorants parfois pour impressionner les convives, pour rehausser le vert de certains légumes. L'ouïe avec la musique, les musiciens sont très souvent présents dans les banquets, accompagnés de danseuses parfois. Ensuite, l'odorat est essentiel, hein, l'odeur des plats et des parfums, comme vous le rappelez à juste titre, accompagne également donc la dégustation des mets et le goût lui-même. Donc vraiment, tous les sens sont activés et le toucher, puisque le fait de prendre les plats donc, et les aliments qui sont coupés avec les doigts crée un contact avec l'aliment lui-même qui renforce le plaisir qu'éprouvent les convives lors du banquet.
Alors, on peut retrouver toutes ces recettes, en particulier en vous lisant dans l'Empire romain par le menu, Dimitri Tillois d'Ambrosi, dans ses excellentes éditions Arché, qui publie également en même temps le travail de jeunes chercheurs sur le Moyen-Âge, qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, mais aussi on peut lire Apicius, l'art culinaire dans la traduction et la présentation de Jacques André, qui vient tout juste de paraître aux éditions des Belles-Lettres, et puis on peut aussi se référer, et nous avons beaucoup puisé dans cet ouvrage, le guide de cuisine antique à la table des anciens, traduit aux éditions des Belles-Lettres en 2010 et présenté par Laure de Chantal. Beaucoup des textes que nous avons lus et que Daniel Koenigsberg a lus viennent de cet ouvrage. Et d'ailleurs, on va terminer, parce qu'on ne pouvait pas laisser nos auditeurs sans une recette qu'ils allaient préparer chez eux tranquillement ensuite. C'est la recette de la patina au lait.
Faites tremper des pignons de pin et séchez-les. Ayez des oursins frais non préparés. Prenez un plat où vous disposerez les ingrédients suivants. Des côtes de mauve et de bête, des poireaux de grosse taille, des céleris, du chou tendre, le tout vert et cuit à l'eau. Un poulet découpé et cuit dans son jus. Des cervelles bouillies, des saucisses de Lucanie et des œufs durs coupés par le milieu. Mettez des cervelas de porc farci à la sauce de Terentus, cuits et coupés en tranches, des foies de poulet, de la chair de merlu frit, des orties de mer, des huîtres ébarbées et des fromages frais. Disposez en couches que vous parsèmerez de pignons et de poivre en grain. Arrosez avec une sauce préparée avec du poivre, de la livrèche et de la graine de céleri et du siphium. Faites cuire, après cuisson, filtrez du lait auquel vous aurez mêlé des œufs crus, de façon à faire un ensemble homogène que vous verserez sur le tout. Quand le mets aura cuit, garnissez-le d'oursin frais, poivrez et servez.
Un dernier mot, Dimitri Tilloy d'Ambrosi. Vous dites dans votre livre que la patina, ça pourrait ressembler à des lasagnes, mais je pense que tout Italien qui se respecte et qui entend cette recette avec des oursins frais et tout ce qu'il y a, des saucisses de Lucani, du cervelet de porc farci à la sauce de Terentius, se dit ça ressemble pas vraiment à ce que je mange quand je mange des lasagnes.
Alors, ce qu'on appelle la patina dans le monde romain désigne avant tout le plat, le contenant dans lequel est préparée la recette, qui donne donc par métonymie ensuite son nom. Il s'agit souvent de plats alors très variés, salés ou sucrés. On peut également faire des patinas à partir de fruits. Alors, vous évoquez les lasagnes. On retrouve dans le vocabulaire romain ce qu'on appelle donc le laganum, qui est une sorte de pâte sur lesquelles on va superposer divers ingrédients. Alors, évidemment, on est assez éloigné des lasagnes bolognaises, mais en tout cas, on trouve l'idée voilà, d'accumuler ces couches de pâte avec des viandes, par exemple, des assaisonnements, des légumes, etc.
Merci beaucoup à vous, Dimitri Tilloy d'Ambrosi. Merci à Daniel Königsberg. Et on se retrouve demain, donc, Victor Massé de l'Épinay, pour une émission consacrée à la fête des sens, mais on pourrait dire aussi, peut-être aussi un peu au sens du toucher, puisque nous parlerons de sexualité. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar à la réalisation.